Chronique Mutante est une émission queer, Riot Girls, transpédéguines, anarchistes, punk et féministes. Telles des bisounours dans une émeute, en direct contre les réacs, machos, fachos, sexistes et autres homophobes. À coups de déconnades, de boules à facettes roses, de musique, de rendez-vous militantes, d'analyses cabotines du quotidien. Pour mettre un grand coup de projecteur collectif sur les alternatives concrètes ou utopiques à la société capitaliste, raciste, transphobe et son corollaire carcéral et psychiatrique. L'ordre se complète dans l'hétéronormalité, le désordre se complote partout ailleurs. Tous les samedis de 18 à 19h sur Radio Panique, 105.4 FM.
Chronique mutante !
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir et bienvenue dans
mon crème. Faut que tu passes juste devant ton micro, je crois.
Bonsoir.
Il est...
C'est moi ou c'est toi?
Bonsoir. Oh, incroyable.
C'était donc le micro.
Oui, en fait, il était éteint, le micro vert, je l'ai rallumé.
Ok, tout va bien, tout va bien. Alors aujourd'hui, on va beaucoup parler de revues de presse et on va aussi écouter un biais d'humeur de Baxter.
Oui, c'est moi.
Oui, c'est toi. Comment vous allez? Comment vous allez?
Ça va. Ouais.
Ça va aussi. J'ai un petit peu mal à la hanche. Parce qu'en ce moment, je travaille dans une régie la plus minuscule du monde. Et que pour ceux qui me connaissent... Je fais à peu près 2 mètres. Voilà. Mais sinon, tout va bien.
Tu vas bien. Faut que tu te fasses craquer, peut-être.
J'ai essayé toute la journée, mais.
Ah. Je vais demander de l'aide à un ami, peut-être.
Oui.
Est-ce qu'on s'écouterait une petite chanson?
Allez.
Pour commencer.
Allez. Dire bonjour.
C'était bonjour tout en douceur. C'est parti. Enfin oui, c'est presque parti.
Ah. Ouh, je vois ce que c'est.
Ouais, moi aussi je vois le reflet de l'ordinateur. Ouh. Ça va être bien, ça va être bien.
Vous avez vu? Ah oui.
Le ciel est noir, mon ami, mais j'y vois clair et la pluie.
Der Regen wäscht uns von allen Sünden.
La vie est flamme, mon amour, et le vent souffle chaque jour.
Der Wind bläst, uns daran zu erinnern, dass wir uns lieben.
Les nuits sont longues, mon amante, comme une
Diese Nächte sind ein paar Augenblicke der Ewigkeit.
Le long du fleuve, mon âme sœur, du haut des cimes aux profondeurs.
Der Wind bläst, uns daran zu erinnern, dass wir uns lieben. De mon âme.
hétéro, on le devient.
Pas toujours.
Intense réflexion.
Et voilà.
Alors, c'était Compromat et Adèle Haenel. De mon âme à ton âme.
Ouais, dont en fait, le morceau existe depuis un bon moment, mais le clip qui vient de sortir émeut la toile.
Ah, il est super ce clip. Même si c'est un peu un plagiat de L'Enfer de Ouzo ou un truc comme ça. Ah, d'un vieux film.
Ah, je suis beau.
Enfin, avec des effets d'image très jolis.
Oh là là, polémique, polémique.
Non, arrêtons de mettre des polémiques là où t'as pas besoin d'avoir des polémiques. C'est un hommage, voilà.
C'est un hommage.
Voilà. Et qu'est-ce qu'elle est belle. Et voilà. C'était mon analyse du jour.
Et alors, quelle est votre humeur, Kim Baxter, aujourd'hui?
Bien, mon humeur est un petit peu compromise. Un petit peu, je sais. C'est compliqué. C'est compliqué.
C'était voilà. Bien de mettre Compromat avant. Alors.
Ouais. Oui, c'était très bien. C'était très bien. Il est 18h10. Nous sommes le 15 février 2020. Et c'est le quatrième billet d'humeur de Kim Baxter. Il est important de nous protéger, entre nous, de se prévenir des dangers. Je me souviens quand, jeunes et adolescentes, on se prévenait entre ados lorsqu'un prof ou un quelconque adulte nous semblait louche, voire dangereux. Nous n'étions pas forcément copaines avant que tu me dises « Fais gaffe, moi je trouve que le prof de sport fait trop de compliments aux filles et je trouve ça chelou ». Merci pour cette équipe d'enfants ados prenant la revanche à bras-le-corps. Personne ne pourrait nous faire du mal si nous prenions soin de nos sœurs et frères. Quand on subit une agression, on ressent, entre autres, le besoin de se venger. Je veux te faire subir la douleur que tu as fait naître en moi. Car très souvent, on ne nous apprend pas à en parler, bien au contraire. On nous a appris à taire la violence, à l'accepter et à la banaliser. Et ce silence se transforme en mélasse, de la boue remplie de vers nécrophages qui vont petit à petit se nourrir de ce que tu laisses sous silence. Le silence. Le silence rend fou. Le silence laisse faner les fleurs. Le silence conduit au suicide. Je suis né en 1990. Les hashtags MeToo et Balance ton porc n'existaient pas. Aujourd'hui, on veut en parler. Aujourd'hui, on ne doit plus se taire. On en a marre de vos conneries. Et toi, garde bien tes mains dans tes poches ou je te casse les doigts. Dans cette société de servitude, j'ai choisi le boycott pour asseoir mes choix politiques. J'ai donc commencé par boycotter les cours de sport, puisqu'après avoir empêché mon professeur de sport d'entrer dans les vestiaires des filles, j'ai pris des heures de colle. J'ai aussi fini par boycotter les cours d'histoire géo, car notre professeur nous distribuait des autocollants signés Nissa Rebella. Et il était hors de question pour moi, du haut de mes 16 ans, de suivre les cours d'un prof d'histoire prenant un parti d'extrême droite. Malgré tout, personne ne les a empêchés d'exercer. Il restait donc à boycotter une image, une idée, un concept, car la personne en question n'était pas atteignable. Là où je veux en venir, je ne sais pas si vous me voyez arriver, mais dénoncer, je suis tout à fait d'accord, sortir du silence est primordial. Boycotter, j'en suis. À un moment donné, tu peux dire fuck off. J'ai le droit de ne pas vouloir participer à quelque chose qui ne me semble pas juste, éthique, écologique et ou que je considère allant à l'encontre de mes principes. Pour moi, il est nécessaire d'allier le plus possible l'acte à la parole. Question d'honnêteté avec moi-même, d'épanouissement personnel, ma déconstruction, mon bien-être, tout ça, tout ça. Les minorités combattent la majorité dominante. Les hashtags MeToo et Balance ton porc ont été créés pour lutter contre l'oppresseur et contre le système dominant. Et après tant d'années de silence, c'est bien la moindre des choses. On vous pointe du doigt. On vous met à mal, toi, le dominant, l'oppresseur, l'agresseur et tous tes autres potes revêches. Allez vous faire foutre. Laissez mes sœurs tranquilles. Toutes mes sœurs. Niquez vos mœurs. C'est le juste retour de bâton que de vous envoyer paître. officiellement et publiquement. Assumez votre bêtise, assumez votre ignorance, assumez votre fainéantise.
Mais comment faire pour apprendre, me diriez-vous ?
Eh bien, sachez que, depuis les années 2000, dans la plupart des foyers s'est installé un outil numérique assez incroyable et rhizomatique que l'on appelle Internet. Il n'est pas seulement fait pour Facebook et votre boîte mail, non. Il y a sur Internet de quoi forger votre outil intellectuel, celui qui, par le biais de la curiosité, se nomme le sens critique. Sur Internet, Intox, Ox et autres s'y baladent, certes. Mais avec un peu d'entraînement, on y arrive. Vas-y Billy, fonce. Tout ça pour dire que ce que je trouve dommageable en ce moment, c'est le retour de la culture du call-out, alias cancel culture. Alors pourquoi ? La culture du call-out est égale à dénoncer, boycotter et cyberharcèlement. Parce qu'il me semble, premièrement, que le harcèlement n'a jamais aidé personne. Le cyberharcèlement, encore moins. Il est même complètement destructeur. Il touche bien entendu ta stabilité mentale, morale, ton cercle privé et professionnel. Autrement dit, donne tes données perso sur 4chan, c'est kiff-kiff. Alors, s'abattre sur le système dominant, oui. Mais entre nous, dans notre communauté déjà stigmatisée, racisée, marginalisée, je suis pas sûr de l'efficacité. Je m'imagine, il y a 5 ans en arrière, si une amie ne m'avait pas repris sur le fait que je mégenrais une fois sur deux une de nos sœurs, parce que je ne lui avais pas posé la question de son pronom, si le call-out avait existé à cette période et que cette amie eût été une pro-call-out annonçant que ma petite ignorance pouvait être interprétée comme de la transphobie, plus l'effet boule de neige du call-out système, je n'aurais jamais été ce King Baxter que vous connaissez. Dans ma destruction, dans ma déconstruction, j'ai appris à faire plus attention. Je me suis rendu compte, j'ai compris l'importance, j'ai remis mes compteurs à zéro. Je me prends en exemple, mais je sais bien que je ne suis pas un cas perdu d'avance, en tout cas j'espère, et qu'il y en a des cas perdus d'avance, horribles, face auxquels on ne sait pas comment répondre autrement qu'en sonnant l'alarme. Parce qu'il y a urgence face à la souffrance que vous nous imposez, nous réagissons à la hauteur de votre violence, à la hauteur de notre plaie béante. Malgré tout, je ne suis pas convaincu par le harcèlement, ni même par la culpabilisation. Je la laisse aux chrétiens. Le militantisme que nous prenons ne va pas sans un minimum de pédagogie. Et encore une fois, je suis la première à être fatiguée d'expliquer. Cela dépend de mon mood. Parfois, je me sens d'humeur pédagogue, mais parfois, je suis une ombre noire d'angoisse qui préfère s'enfuir avec le vent. Je respecte mon énergie mentale, psychique et physique. Bref. Si la vengeance est un plat qui se mange froid, c'est qu'il a été minutieusement réfléchi. Et à vrai dire, le sentiment de vengeance m'a rongé jusqu'au pire. Je me suis soigné autrement. Self-care, self-care. N'oublions pas d'être pédagogues entre nous et avant tout, bisous et amour sur vous.
Merci beaucoup.
Mette plaisir.
Et des expériences ressemblent difficiles en call-out ou quelque chose que tu vois beaucoup autour de toi?
Des fois, ça m'attriste un peu.
Ouais.
De me dire qu'on n'a pas tout le temps la possibilité de... Enfin, qu'on ne laisse pas tout le temps la possibilité à quelqu'un d'autre de comprendre, en fait, son erreur.
Ouais.
Bêtement, parce que j'ai vu ça, je pense, ce matin. C'est Joachim Phoenix qui a expliqué qu'avant il était super difficile, parce qu'il se fait beaucoup entendre en ce moment, parce qu'il est militant vegan.
Et parce qu'il gagne tous les prix pour
Joker. Pour le Joker. Mais du coup, il a pris la parole en disant qu'avant il était super difficile pour travailler avec lui, qu'il a été un gros con, qu'il a dit de la merde, mais qu'on lui a donné une deuxième chance et que du coup il a compris, qu'il a changé, que maintenant il est militant et que genre il a eu une vraie prise de conscience et tout ça. Et que. Bon, il y a des personnes qui sont rattrapables, il y en a d'autres, je sais pas quoi en faire en vrai, mais, mais bon, malheureusement, on est obligé de vivre avec.
Ouais, bah, y a ce truc de la respectabilité dans la politique, qu'on retrouve souvent, qui est hyper problématique, qui crée, enfin problématique déjà, ce mot m'énerve parce que c'est souvent le mot qui est utilisé dans les stratégies de call-out. Qui va individualiser une personne en disant c'est cette personne qui pose problème et pas son comportement. Oui. Même si oui, il y en a des personnes qui posent problème.
Il y a des personnes qui posent problème, de par leur comportement aussi.
Tout à fait. Et, et cet été, j'avais traduit un article qui s'appelait « Pourquoi les queers sont-ils si méchants entre queers ?»
Ouais, j'avais lu ça. Ouais,
et en gros, ça parlait de ce que tout le trauma et la vie en tant qu'une minorité opprimée peut créer comme mécanisme de défense et comme hostilité face à tout ce qu'on peut associer, même de façon automatique, en déclencheur d'un rappel d'une violence. Comme ça c'est une menace et je n'en veux pas. Et comment dire, dans des lieux refuges comme de la communauté queer, pour se protéger, on va aller pointer du doigt et rejeter ce qui fait peur, quoi.
Et franchement, je comprends tout à fait ce sentiment-là, quoi. Tu vois, le besoin de se sentir protégé et de sortir, d'essayer de sortir de ce qu'on considère notre territoire de safe, d'essayer de le sortir et de le mettre loin. Et je comprends tout à fait parce que, parce qu'on a envie de se sentir bien là où on va, surtout en plus après une agression. Enfin, c'est tout à fait légitime, je pense. Mais c'est pour ça que je parle de vengeance. En fait, c'est pas un sentiment qui fait du bien, du tout. Et l'assouvir non plus. Il y a d'autres moyens de se soigner.
Ouais. Un petit morceau de musique ?
Ah ben, franchement, remonte-nous le moral, quoi. Ok. Bah oui et non, je te dis.
Pardon, j'ai remis un scène sans mettre le jingle. Allez,
c'est pas grave. Bah,
je peux mettre un petit jingle pour le principe.
Oui, donc, pour dire.
Qu'est-ce que je fais? Je m'en mêle.
L'ordre se complète dans l'hétéronormalité. Le désordre se complote partout ailleurs.
Ah oui.
Ouais. Ici aussi, hein.
Mini jingle. Je dois m'en aller.
Mais non, c'est pas possible.
Mais si, parce que je vais aller travailler.
Oh.
Je retourne dans ma boîte à chaussures.
Terrible.
Si vous m'entendez, j'arrive. N'ayez pas peur.
Bah merci en tout cas.
Boîte à chaussures, j'arrive.
Fais du bien à tes hanches.
Oui, voilà.
Voilà, tout à fait.
Exactement. Je ne croiserai pas les jambes.
Bon courage.
Merci. Je vous embrasse.
Bisous, mais bisous.
Également.
Bisous, bisous.
Et nous, alors, qu'est-ce qu'on fait en devant du coup?
Mais je sais pas.
Laisse en tête à tête.
Ah oui.
J'ai quelques infos à donner. Il y en a qui sont sorties.
Ah oui.
Si jamais, si tu veux. Les chercher.
Sorties sur l'imprimante.
Oui, c'est ça.
Tout à fait. Ok. Eh bien, je vais me lever tout de suite.
Je vais lancer le jingle.
Ok.
Et on peut commencer. Hop, 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 hop. Oh là là, qu'est-ce qu'on est DIY sur ces chroniques mutantes.
Bisous, bisous.
La revue de presse.
Oh non. La revue de presse.
Queer, 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 queer.
Chronique mutante, tant.
Et hop, hop, hop.
Ouais, hop, hop.
1er février, la RTBF relaye une info de Bruxelles. Mia Bollars reçoit le prix du meilleur espoir féminin à la remise des prix des Magritte, qui est la cérémonie belge de remise des prix du cinéma, équivalente à la mesure bruxelloise évidemment aux César et autres Oscars. Mia Bollars est l'actrice principale de Lola vers la mer, qui est en road trip avec Lola, une jeune femme trans en fin de parcours transitionnel, et son père. Les deux personnes sont dans une relation conflictuelle et y voient peut-être une occasion de renouer. Les communautés militantes trans ont salué le fait que Lola n'est pas coutume, pas jouée par une femme cis jouant un rôle de femme trans.
Oui.
Voilà. Et que, par ailleurs, bah, du coup, en plus, elle a un prix.
Bah super. Ouais.
Alors le 7 février, enfin une news du 7 février reliée par Tétu. Donc à Paris, la librairie Les Mots à la Bouche a trouvé un nouveau local. Cette librairie LGBT emblématique de la capitale française, qui a eu son heure de gloire à l'époque où le Marais était à son apogée en tant que quartier gay parisien, doit déménager après 36 ans d'implantation dans ce quartier. En effet, selon Tétu, le propriétaire, souhaitant profiter de la gentrification du quartier, a annoncé son intention de tripler le loyer à l'expiration du bail en mai 2020, ce qui est quand même pas rien. Et donc, après quelques mois de recherche et d'appel à l'aide, la librairie a trouvé un nouveau local dans le 11e arrondissement et elle quitte donc son marais historique. Toujours une news de Tétu du 7 février. Instagram suspend le compte de Barbara Bush après la une de Télérama. Donc en fait, Barbara Bush a fait la. Donc c'est une artiste queer féministe et activiste anti-grossophobie qui a fait cette semaine la une du magazine Télérama, qui consacre un dossier à la grossophobie. Et si elle pose bien nue sur la couverture, aucun téton n'en dépasse. Pourtant, Instagram a décidé de supprimer la publication et le compte de Barbara Bush après le partage de la couverture. Depuis, le compte a été rétabli. Instagram a plaidé l'erreur. Certains internautes ont eux aussi rencontré des difficultés à poster la une. Et du coup, Barbara Butch a lancé le hashtag Barbara Butch Challenge et appelé ses followers à publier la couverture sur leurs réseaux sociaux. Des dizaines d'internautes ont répondu à l'appel, initié sur le compte de l'artiste par une photo de l'autrice Virginie Despentes brandissant la couverture. L'an dernier, plusieurs militants et militantes contre la grossophobie avait dénoncé les conditions d'utilisation discriminantes du réseau social à l'encontre des personnes grosses. Lorsque l'on tapait le hashtag sur Instagram, un message apparaissait. Les publications contenant les mots ou les tags que vous
recherchée encourage souvent un comportement pouvant nuire ou conduire au décès. Si vous traversez des moments difficiles, nous sommes là pour vous aider. Instagram se réservait même le droit de masquer les publications comportant le hashtag grosse pour protéger notre communauté, entre, disent-ils, en raison de contenus encourageant un comportement dangereux. À l'époque, contacté par RTL, Instagram expliquait qu'il s'agissait d'une erreur et assurait que tout contenu lié à ce hashtag était désormais accessible sans avertissement. Je continue ?
Oui, vas-y.
Alors, les Suisses approuvent par référendum une loi anti-homophobie par 63%, malgré les milieux populistes et conservateurs qui avaient lancé ce référendum contre la réforme en dénonçant une dérive vers la censure et d'atteinte à la liberté d'expression. Matthias Reinhardt est le parlementaire socialiste à l'origine de cette réforme du code pénal helvétique. C'était un signe important pour les droits des LGBT, mais aussi pour les droits de l'homme, pour la tolérance suisse. Pardon, je me perds.
Pour la tolérance suisse, oui.
Oui.
Donc
c'est une victoire importante et maintenant, oui, nous attendons le mariage pour tous, c'est très important. Il n'y a pas de mariage pour les LGBT en Suisse et nous battons pour ça. Donc c'est le militant suisse qui dit ça. La nouvelle loi élargit la législation suisse existante contre les discrimination et les appels à la haine raciale et l'étendant à l'orientation sexuelle. Et donc en gros, pour résumer très vite, c'est les conservateurs qui veulent empêcher que sorte une loi contre les discriminations homophobes et ça se retourne contre eux.
Ouais, parce qu'ils ont lancé un vote et du coup...
Et le vote s'est retourné contre eux.
Et ben super.
Et bien fait.
Et bien fait, ouais. Alors j'ai vu aussi que les Pussy Riot ont été arrêtés, donc c'était la semaine dernière à Saint-Pétersbourg, alors qu'elles tournaient un clip. Et il a été invoqué, parce qu'on en a déjà parlé, cette loi, la loi russe contre la propagande homosexuelle, sert à, en plus de mener la vie dure aux homosexuels, à censurer pas mal de contenus féministes ou qui parlent d'égalité de genre, etc. À partir du moment où tu parles de la condition d'être femme ou d'être homme, forcément...
Tu fais de la propagande...
Oui, voilà, homosexuelle. Enfin, voilà, la dérive n'est pas très très loin, j'imagine.
De l'incitation... Donc, ça veut dire qu'on pousse les gens à éventuellement devenir homosexuels, entre guillemets, ou...
Ouais. Bah, il y avait un vieux slogan qui disait attention, que je trouvais vraiment pas mal, en devenant féministe, une femme devient lesbienne, pratique la sorcellerie et je sais plus quoi d'autre. Et, ouais. C'est pas faux. Enfin, pardon.
C'est bien,
c'est pas faux.
C'est bien, c'est bien.
Je sais pas si être féministe m'a rendu lesbienne ou l'inverse. Et voilà, et maintenant elles sont libérées en tout cas, mais elles se sont fait arrêter ce jour-là avec 100 autres militants. Et donc, les autorités reprochent à la vidéo d'enfreindre la loi en propageant l'homosexualité et en étant extrémiste. Donc en fait, le morceau parle du combat contre les détenteurs du pouvoir en Russie et des violences policières. Ouais. Donc voilà.
Et en fait, elles ont été libérées.
Et elles ont été libérées, oui.
Ouais, donc c'est tout récent. Hein.
Ouais.
Voilà. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a quand même de la liberté d'expression ici?
Je sais pas, faut demander ça à tous les journalistes qu'on n'a jamais retrouvés.
Allez, montrez-vous s'il vous plaît. Dites-nous tout.
Je suis cachée. Bah, je sais pas si en fait, peut-être qu'il y a des juges qui considèrent qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait rien pour quoi les condamner, quoi.
Oui, et puis sans doute un petit bout de diplomatie et de pression internationale aussi.
Oui, c'est vrai. Comme elles sont très connues, ça n'arrange pas les affaires de Poutine, quoi. Mmh. Et si on s'écoutait une petite chanson pour revenir plus tard
Allez, pourquoi pas. Bonne idée. Détendons-nous un peu.
Ah oui, parce qu'en plus, la prochaine nouvelle n'est pas terrible, terrible, je crois.
Oui, elles ne sont pas top, les nouvelles, cette semaine.
Bah, souvent...
Oui. Allez, un petit morceau, oh, on en parlera après. Paf. Est-ce que ça va marcher? Ça marche? On entend quelque chose. Pourtant, j'ai mis d'autres trucs. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne marche pas. Pourtant, j'avais branché d'autres trucs. Je pensais avoir bien branché tout comme il fallait.
Oui.
Eh bien, on va faire... peut-être mettre autre chose. Désolé pour ce petit contretemps. Hop, 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 hop. Vraiment, c'est n'importe quoi cette émission. Hein.
Sinon, je peux parler de la seule bonne nouvelle de la revue de presse.
Ah ben, on attend une chanson. Oui.
C'est qu'il y aura... Oh merde, pardon. Voilà. C'est qu'il y aura une pride musulmane LGBT à Londres en avril. C'est le groupe LGBT musulman Iman qui l'a annoncé dans les médias il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière. Et donc voilà, ce sera le 11 avril, si ça vous intéresse. C'est un samedi, ce sera à Londres. Et ils choisissent encore des personnes qui parlent arabe pour être des praticiens de bien-être ou des traducteurs ou toutes sortes de bénévoles sur l'événement. Donc voilà. Okay. Tu es en train de démonter l'ordinateur?
Mais non, j'essaie de trouver le bon câble parce que je me demande si j'avais pas le mauvais câble. Tant pis, je vais faire à la bonne franquette. C'est parti.
Allez.
Les Lolita des magazines, rêve de papier. Panique 105.4.
Et de retour dans Chronique Mutante. Alors on a eu une pagaille d'impressions dans notre revue de presse. Donc voilà, c'est
oui, ça fourmille quand on est pas à l'antenne, on bosse.
Rigole
pas. Pas du tout.
Pardon, je m'énerve moi-même, je suis désolée, je fais pirater mon micro.
Ah, j'ai pas entendu.
Ah oui, bah alors c'est juste pour moi. Alors, on retourne aux histoires pas jojo. Pardon. Au Nigeria, un procès symbolique des discriminations contre les homosexuels en Afrique. Ah, attends, moi je croyais l'inverse. Ok. Ah non, c'est pas ça. C'est pas un procès contre les discriminations, c'est bien un procès contre des homosexuels. Ok, j'ai cru. Donc, pardon. Ils sont 47 hommes dans le box. Les 4 et 5 février, dans la capitale du Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, qui sont accusés de démonstration publique d'affection avec des personnes de même sexe. Et pour ce seul motif, ils risquent 10 ans de prison. C'est la troisième série d'audiences de ce procès de masse qui a débuté à l'automne dernier devant la Haute Cour fédérale de Lagos. Tous ces hommes ont été arrêtés il y a près de 10 ans dans la boîte de nuit d'un hôtel de ville. Et leur ligne de défense est simple. Nous n'avons rien fait, c'était une simple fête d'anniversaire. En gros, la seule façon pour eux d'en sortir, c'est d'apporter la démonstration qu'ils ne sont pas homosexuels. Il ne faut surtout pas défendre un quelconque droit à l'orientation sexuelle de son choix, ce serait peine perdue. Et ce procès est une première. Jamais la loi qui, depuis 2014, interdit les relations homosexuelles au Nigeria, n'avait conduit à de pareilles poursuites devant la justice. Donc sans aller jusque-là, les homosexuels font en permanence l'objet de tabassage, de harcèlement, d'humiliation, de chantage, de discrimination à l'embauche, etc. Selon plusieurs études, plus de 90% des 200 millions de Nigériens considèrent l'homosexualité comme inacceptable et contre nature. Et c'est cette violence sociale qui se double donc d'une violence d'État, avec notamment cette loi de 2014. L'homosexualité est d'ailleurs criminalisée dans plus de 30 pays africains. C'est comme l'Ouganda où la situation est catastrophique, avec un projet de loi qui a même été surnommé « Kill the gays », donc « tuer les gays ». La situation n'est guère meilleure au Kenya ou en Tanzanie, à l'est du continent. Ça évolue quand même, mais c'est très lent. Le dernier pays en date à avoir dépénalisé l'homosexualité en Afrique, c'est le Botswana, au sud du continent, en juin dernier. On peut également citer en Afrique, au sud de l'Afrique, l'Angola ou le Mozambique. Là encore, les lois anti-homosexuelles ont été supprimées ces dernières années. Ce procès collectif au Nigeria est donc observé avec attention. Il a valeur de symbole. Ensuite, on va en Hongrie. Donc, c'est à l'Opéra de Vienne qu'il y a pour la première fois un couple queer. qui danse sur scène. Bien qu'elle ne soit pas en couple dans la vie, Iris Klopfer et Sophie Grau, qui s'identifient comme non-binaires, se sont rencontrées à l'école en Allemagne et dansent ensemble depuis 6 ans. Mais le 20 février, elles formeront le tout premier duo de danse queer du bal, rejoignant 288 autres débutantes pour la première valse de l'événement de la haute société viennoise. Le Vienna Opera Ball est un bal de société autrichien qui se déroule depuis 1814. Pour l'occasion, le bâtiment de l'Opéra d'État de Vienne est transformé en salle de bal pour la nuit et l'événement accueille de nombreuses personnalités politiques, culturelles et industrielles. Le code vestimentaire très strict a toujours exigé des hommes qu'ils portent un nœud papillon, une queue de pie, tandis que les femmes doivent porter des robes blanches. Iris Klopfer a déclaré qu'elle se sentait plus à l'aise de porter la robe blanche. Sophie Grau a déclaré qu'elle était plus fluide dans sa façon d'habiller, se présentant parfois comme féminine, parfois comme masculine. Et donc, ça semble une nouvelle un petit peu... Pardon. J'ai pas trouvé la fin de cet article. Et voilà. En gros, c'est accepté. Je suis désolée. C'est accepté de nos jours, mais ça a fait une petite polémique parce que c'est un bal très strict, etc. Et du coup, ce sont les premiers depuis 1814 à danser la valse.
Allez.
Et en Hongrie, les défenseurs des droits LGBT dénoncent des attaques de plus en plus fortes du gouvernement. Donc c'est un petit récapitulatif de choses assez violentes qui sont passées ces dernières années en Hongrie. L'organisation hongroise de défense des droits des LGBT, ATER Society, a déclaré à NBC qu'une combinaison de rhétorique hostile du parti au pouvoir, de mesures législatives anti-LGBT et de policiers qui ne protègent pas la communauté leur faisaient craindre le pire. Donc je cite, à la fin de 2019, nos pires craintes sont devenues réalité lorsque les acteurs étatiques hongrois dirigés par les partis du pouvoir ont commencé des attaques de plus en plus concentrées contre la communauté LGBTQI. Nous craignons que cela ne devienne le modus operandi du gouvernement. Viktor Orban, le premier ministre hongrois depuis 2010, qui dirige le pays le parti de droite ultra Fidesz a mené vraiment la vie dure aux homosexuels. Dès 2012, il a fait adopter une nouvelle constitution qui définit le mariage comme une union entre un homme et une femme et ne protège pas explicitement les personnes LGBT contre la discrimination. En 2016, le gouvernement a bloqué un accord de l'Union européenne pour lutter contre la discrimination homophobe et transphobe. Et un porte-parole du gouvernement a déclaré à l'époque « La Hongrie n'est pas en mesure de souscrire à la liste des actions pour faire progresser l'égalité des LGBT ». En 2018, après une campagne homophobe contre le spectacle, 15 représentations de la comédie musicale Billy Elliot ont été annulées à Budapest. Alors que bon, il ne s'agit pas vraiment de l'histoire d'un homosexuel, mais juste d'un garçon qui fait de la danse.
Ben oui, c'est surprenant.
C'est surprenant, mais bon, il leur en faut pas beaucoup. En 2019, le président du Parlement hongrois et membre de Fidesz, László Kovács, a déclaré publiquement « Sur le plan moral, il n'y a pas de différence entre les pédophiles et ceux qui demandent l'adoption pour les gays. Tous deux objectivent l'enfant comme un bien de consommation et le considèrent comme un moyen de s'épanouir. » Selon l'Institut de sondage Gallup, 2019 a également connu un triste niveau record en ce qui concerne la liberté des médias dans le pays, avec 90% d'entre eux contrôlés par le gouvernement et ses alliés. En octobre, Coca-Cola a été condamné à une amende pour une campagne publicitaire mettant en scène des couples de même sexe. Une lettre a ordonné à la société de cesser toute publicité préjudiciable au développement physique, mental, émotionnel et moral des enfants et des mineurs. Le même mois, des néo-nazis ont brûlé le drapeau arc-en-ciel qui flottait devant un centre culturel associatif à Budapest. Lors de la Trans Pride de Budapest, qui a eu lieu pour la première fois le 23 octobre 2019, des centaines de personnes ont exigé que le gouvernement leur permette de changer de nom et de sexe. Les organisateurs ont déclaré dans un communiqué que le gouvernement et les personnes travaillant pour lui parlent des personnes LGBTQIA comme si elles étaient des excréments de chiens et les comparent aux pédophiles. Et enfin, la Hongrie a décidé de se retirer du concours Eurovision, une manifestation internationale perçue comme trop gay.
Décidément, les clichés ont de la dent dure en Hongrie, quoi.
Par le régime.
Ouais.
D'autres petites news sinon, ah oui, un petit bonjour à Thaïs et Vincent qui nous écoutent depuis Turin.
Ah, bonjour.
Ils nous écoutent.
Ciao.
Dans le nord de l'Italie.
Oui. Et, la direction de l'Académie des Césars démissionne collectivement après tous les remous qui a eu lieu suite aux 12 nominations pour le dernier film de Polanski. Et donc, dans un communiqué, ils ont décidé de démissionner pour que la prochaine assemblée puisse réformer le système. Donc, le système de comment on fait pour devenir un votant de l'Académie des Césars, qui est assez opaque et pas mal clientéliste, parce qu'il faut être parrainé. Donc, bon, c'est assez représentatif du milieu du cinéma, mais aussi qu'est-ce que j'ai appris cette académie est aussi dirigée par un conseil d'administration dont Roman Polanski fait partie, je crois. Donc voilà, le serpent qui se mord la queue.
Bon. il reste 5 minutes d'émission. Je reçois une dédicace.
Ouais.
Enfin, je reçois une suggestion musicale. Est-ce qu'on continue la revue quand même?
Faisons plaisir.
Mais alors, il faut que je la cherche.
Ah, faut que tu la cherches. Ok.
Bon, allez. Mais du coup, est-ce que je sais taper et lire en même temps une news?
Ah, ok.
Donc il y a eu, dans le cadre de l'opposition à certains folklores comme notamment ici c'est la Ducasse de Dezacre, un militant de Bruxelles Panthère a été inculpé pour menace d'attentat. Et donc il faut savoir que c'est le genre de manifestation qui est adepte du blackface et de racisme bien enraciné, à tel point que les gens, quand on leur en parle, ils se rendent pas compte qu'ils font du racisme en fait.
Donc c'est ces événements qui mettent en scène un sauvage, en fait,
ouais,
un sauvage noir qui fait peur aux bonnes gens, et c'est assez incroyable que oui, les gens ne tillent pas, et que qu'est-ce que tu peux accepter tant que c'est dans le folklore ou le terroir.
Voilà.
Ouais.
Mais du coup, je propose qu'on se quitte, parce que le morceau fait 4 minutes et il reste 4 minutes.
Ok,
super. Je propose qu'on se quitte sur Blondie Atomique, et on revient la semaine prochaine, et on est suivi par l'œil carnivore. Voilà,
c'est pour qui cette dédicace?
C'est pour Vincent.
Ah bah, j'adore cette chanson.
De Turin, donc. Allez Turin, on vous envoie la sauce. À la semaine prochaine. Ah, ça me met un peu de temps de nouveau. Ah là là, on va y arriver.
Oui.
On va y arriver.
Atomic.